Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la table ronde La cinquième limite. Une table ronde qui, donc, comme il est de rigueur cette année, explore une limite. Une limite un peu insidieuse, celle qu'on va explorer, parfois invisible, en général invisible, jusqu'à ce qu'elle devienne pour certaines et certains d'entre nous un véritable cauchemar, la pollution, l'introduction de nouvelles substances, de nouvelles matières dans notre environnement, alors qu'elles n'auraient a priori rien à y faire. L'humain excelle dans l'art de la contamination, pour le meilleur et pour le pire. Cette contamination, souvent imaginée dans les romans d'anticipation, les films, on pense évidemment au célèbre Wall-E. On voudrait bien s'en débarrasser de cette contamination et c'est le sens de la question qui est posée dans le programme en tout cas. Que faire pour modifier cette trajectoire mortifère? On va parcourir des réponses, des exemples avec nos trois invités aujourd'hui. Marie Baudinier, vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, équipe allergie à Nantes, c'est bien ça?
Oui, bonjour à tous, oui. C'est exactement ça.
Et vous allez donc nous expliquer un peu tout à l'heure le travail que vous menez au sein de l'INSERM. Nous sommes avec Charline Varembourg. Bonjour Charline.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste à l'INSERM, épidémiologiste non-Covid, comme vous me l'avez dit, puisque l'épidémiologie a été beaucoup sous les projecteurs pendant la pandémie. Vous travaillez sur l'impact de l'environnement sur la santé et vous êtes responsable d'une cohorte. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une cohorte et comment ça fonctionne. Et enfin, Joseph Caglioni. Bonjour, Joseph.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur. Vous avez publié, entre autres, la bande dessinée La planète impossible et plus récemment Vénéra, dont certaines planches nous montrent un environnement qui se délite complètement et que l'on désespère à sauver. Un genre, en tout cas, moi, j'ai ressenti un genre d'éco-anxiété et vous pourrez nous parler un petit peu de ça pendant cette table ronde. Alors, Marie, je voulais peut-être commencer un peu avec vous pour parler d'allergie alimentaire, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous faites dans votre travail?
Oui, je suis responsable d'une équipe allergie à l'unité BIA de Nantes, à l'INRAE de Nantes. Et donc, on s'intéresse aux allergies et plus spécifiquement aux allergies alimentaires. On cherche à comprendre finalement dans l'aliment ce qui rend les gens allergiques alimentaires. Et on essaye aussi d'établir des stratégies par l'aliment pour empêcher le développement de ces pathologies. Alors, les allergies, c'est environ 30% de la population mondiale, les allergies tout confondues. Hein, et on estime qu'en 2050, 50% de la population sera allergique. Donc, on voit que c'est quand même une pathologie qui ne cesse de progresser.
Alors, quand vous parlez d'allergie, peut-être on peut préciser, est-ce que quand vous dites 30%, c'est tout type d'allergie ou uniquement allergie alimentaire? Voilà, de quoi on parle?
Alors, c'est tout type d'allergie. Ce sont des allergies qu'on dit cutanées, la dermatite atopique, qui touche environ 15% des enfants européens. Ça touche beaucoup les enfants. C'est la maladie allergique la plus précoce des allergies, en fait. Les allergies alimentaires, c'est environ 6% des enfants de moins de 5 ans. Et elles sont souvent associées à l'eczéma en début de vie. Alors, ces allergies se développent très tôt dans la vie. Elles peuvent guérir spontanément ou continuer tout au long de la vie et progresser à l'âge adulte, à l'adolescence, vers des allergies respiratoires, qui est l'allergie la plus fréquente puisqu'elle touche 30% de la population européenne. Donc, en fait, c'est une véritable marche, c'est une histoire, l'allergie. Elle commence tôt dans la vie, elle évolue tout au long de sa vie, en progressant, en guérissant et en se développant vers d'autres allergies de type respiratoire.
Et pour qu'on se fasse un petit peu une idée, quand vous dites 30%, est-ce que c'est plus, moins qu'avant? Est-ce qu'il y a une évolution?
Alors, il y a une évolution. Il y a une évolution, notamment au niveau de l'eczéma et de l'allergie alimentaire, qu'on voit de plus en plus maintenant. Mais il faut aussi dire qu'on diagnostique beaucoup plus maintenant les allergies. Donc, c'est aussi pour cela qu'on les voit progresser, puisqu'on les diagnostique. Mais on voit quand même que ce sont des maladies sociétales liées à nos modes de vie, et d'où ma présence ici, puisque l'environnement joue un rôle majeur dans l'apparition de cette maladie. C'est vraiment une maladie environnementale qui a des causes aussi génétiques, mais pas que. L'environnement joue un rôle primordial, notamment l'exposition à la pollution, l'exposition aux animaux, notamment les animaux de la ferme. Et là, dans un contexte plutôt positif de prévention de l'allergie, puisque les enfants élevés à la ferme, au contact des animaux de la ferme, développent moins d'allergies que les enfants de la ville.
Alors là, donc, on parle d'impact de l'environnement sur les allergies, mais l'environnement n'a pas qu'un impact sur les allergies. Charline, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu aussi vos recherches et sur quoi vous travaillez ?
Moi, je travaille sur des données de cohorte mère-enfant, donc c'est-à-dire que c'est un groupe de femmes enceintes initialement qu'on a suivi en Bretagne. Donc, ça représente 3500 femmes enceintes. Et on a suivi finalement le développement de leurs enfants et la santé de leurs enfants. Et notre objectif principal était d'étudier justement l'impact de l'environnement et de l'exposition à certains contaminants chimiques pendant la grossesse sur le développement et la santé de l'enfant, donc entre autres les allergies, mais aussi tout un tas d'autres pathologies, que ce soit du développement cognitif, de l'obésité, des malformations à la naissance.
Et pour nous donner une petite idée, sur quelles substances vous travaillez ? Qu'est-ce que vous allez chercher comme substances qui sont présentes dans l'environnement et qui ne devraient pas y être ?
Alors initialement, la cohorte elle a été mise en place pour s'intéresser à deux groupes de substances principalement. Donc le premier groupe, qui sont les pesticides. Donc on retrouve dans notre environnement à la fois en agriculture, mais pas que. Il y a aussi des pesticides qui se retrouvent dans nos maisons parce que on va vouloir protéger nos animaux de puces ou de tiques. Donc on va leur mettre des petits colliers, des petits antipuces, des choses comme ça. Donc là, ça va aussi exposer les propriétaires à des pesticides. Et puis, il y a aussi tout ce qui est via l'alimentation. Et donc, le deuxième groupe de substances auxquelles cette cohorte s'intéressait initialement, ce sont les solvants. Alors, les solvants, c'est un terme assez vague qui regroupe tout un tas de substances différentes qui sont utilisées dans les peintures, dans les colles, dans les vernis et, de façon plus surprenante peut-être pour certains, dans les produits cosmétiques. Donc, c'est les deux groupes de substances auxquelles on s'intéressait initialement. Et puis, il y en a eu d'autres qui se sont ajoutées.
Des substances que, globalement, on a dans notre environnement très proche, qu'on se met sur la peau, qu'on ingère, c'est ça ?
Exactement.
L'idée. Et au niveau des allergies, on est sur quel type de substances, en tout cas, qu'on suspecte ?
Avant tout, les allergies sont liées aux protéines que l'on retrouve, alors pour les allergies alimentaires, dans l'alimentation, ce qu'on appelle les allergènes, mais pour les allergies respiratoires, ce sont des allergènes aéro-aériens, donc des pollens, par exemple, des graminées, et aussi des acariens. Donc, en fait, ce sont des protéines. Après, les allergies, il faut se dire que ce sont des maladies donc environnementales liées à des expositions à des polluants. En effet, on sait par exemple que les nanoparticules de diesel ont un effet ce qu'on appelle adjuvant, c'est-à-dire qu'ils vont renforcer l'allergie à ces protéines, en fait. Donc, ils vont booster le système immunitaire pour faire plus d'allergies. C'est ce qu'on pense aussi pour certains. Peut-être on se pose des questions sur le rôle des additifs, sur le rôle des microplastiques, sur le rôle des pesticides, qui pourraient aussi avoir cet effet adjuvant de renforcement de l'allergénicité à ces protéines de notre environnement, que ce soit l'aliment ou que ce soit dans l'air, les protéines de l'air.
Alors là, pour bien comprendre, on parle d'une allergie, entre guillemets, classique, je veux dire presque naturelle, le rhume des foins, une allergie qui serait donc renforcée directement par ces substances qu'on introduit dans l'environnement.
Ce sont les hypothèses que nous posons actuellement et que nous voulons valider. Je vous dis, ça a été validé avec les polluants au niveau des diesels, mais ça reste à valider quand même pour les additifs, pour les plastiques et pour les pesticides.
Et le diesel, il renforce quel type d'allergie ?
C'était dans le contexte des allergies respiratoires, donc c'était dans le contexte de pollen.
Très bien. Alors, avant qu'on descende un petit peu plus encore dans le détail des études qui sont menées et des résultats, surtout, peut-être un petit mot de la part de Joseph. Alors là, on parle de pesticides, on parle de choses qui font peur. Est-ce que ce sont des substances, des choses qui, toi, t'intéressent dans ton travail ou en tout cas dans ton rapport à la représentation de l'univers, de ton univers de dessin ?
Pas consciemment, pas directement, c'est pas, mais dans ma dernière histoire, par exemple,
il s'agit de Vénéra.
Vénéra, voilà. Vénéra. Ça se passe tellement pas bien qu'en fait ils en font un nouveau. Donc c'est de la BD, donc on peut. Et dans ce nouveau monde, il y a quelque chose dedans, une entité qui est incarnée par des sortes de personnages qui sont sombres et ils sont allergiques à la vie. Et parce que c'est ce qui est vivant qui les rend allergiques, eux. Et du coup, ça détruit ce que ça touche. C'est comme une sorte de... Mais on se rend compte à un moment donné que ce monde dans lequel ils sont, dans lequel ce refuge, comme une arche de Noé, quoi. Et en fait, c'est un animal, c'est quelque chose qui est vivant. Et donc, ces choses-là, c'est le système immunitaire de l'animal qui combat, en fait. C'est un peu complexe. C'est pas de la science, donc.
Non, mais.
C'est de la fiction. Mais voilà, donc en fait, c'est comme un système immunitaire qui viendrait comme un ordinateur vivant. Ouais, un peu comme Matrix, mais dans un poisson.
D'accord. Une sorte d'allergie ultime, finalement, puisqu'il
devient
allergique à ce qu'il a. D'accord. Est-ce que c'est lié à la planche que vous souhaitiez nous montrer ?
Pas
forcément.
Tout est lié à la. Oui, parce
on,
que
peut, on veut la montrer ?
Oui, ça donne une idée.
Alors en régie, voilà.
Donc là, c'est un humain qui est devenu très allergique et il vit sous l'eau.
Donc là, on est dans quelle œuvre ?
Là, c'est Vénéra, c'est le dernier, en fait. Et donc, il est à l'intérieur de quelque chose. Et en fait, ils pensent qu'ils sont dans un monde virtuel. Ils pensent qu'ils sont morts, qu'on les a transférés dans un monde virtuel. Il y a plein d'utopies comme ça, je pense, et comme on devient immortel en téléchargeant son esprit dans une machine, sauf que là, on les télécharge dans une sorte d'animal, qui n'est pas un poisson, qui est une sorte d'organisme marin, peut-être une sorte de... Oui, pas de méduse, mais enfin, bon, voilà. Et le système immunitaire de la chose ne veut pas les accueillir. C'est un peu... Voilà.
Est-ce que nos scientifiques veulent réagir à cette planche ou à ce qu'a dit Joseph ?
J'ai pas tout saisi, mais le système immunitaire veut pas l'accueillir, hein, puisqu'il serait néfaste pour.
Il voit ça comme une menace, ça vient de l'extérieur.
D'accord.
Donc il veut le repousser dehors. Donc mais c'est pas, enfin c'est.
Et ils sont sous l'eau.
Et ils sont ça se passe sous l'eau, oui.
Parce que sous l'eau, en fait, on serait protégé de tout, c'est ça le sens ?
Non, pas forcément.
Donc c'est le système immunitaire qui défendrait cet animal, en fait. Qui veut se défendre de cet animal puisqu'il vient d'un monde qui n'est pas sous-marin.
Oui, c'est ça. C'est comme si le système immunitaire, c'était la police de cet animal. Je pense que j'ai dû avoir des réminiscences de cette série quand on était petit qui s'appelait La Vie. Où on voyait des globules blancs et des globules rouges qui marchaient et qui discutaient entre eux. Je pense que ça ressemble peut-être un peu à ça, mais en plus sombre. Quoi.
Un corps qui rejette la vie elle-même.
Voilà, il y a des choses. Oui, voilà.
C'est très intéressant, mais le système immunitaire, en fait, il a deux fonctions. Il a une fonction primordiale, c'est de lutter contre les agressions, donc de se défendre des virus, on en a entendu suffisamment parler actuellement, des bactéries, en effet des allergènes, mais il a aussi un pouvoir, c'est de s'adapter. Et en s'adaptant, d'induire ce qu'on appelle la tolérance. De la tolérance, justement, à ces allergènes de notre environnement. Et il doit en permanence s'adapter. Et souvent, il ne le fait pas tout seul. Il le fait avec notre microbiote. Et je pense que vous avez tous entendu parler du microbiote, qui est un acteur clé aussi dans l'homéostasie, l'équilibre de notre organisme. Et donc, ça serait très intéressant de rajouter ce microbiote, en fait, et la symbiose du système immunitaire avec le microbiote pour se protéger de tout ce qui nous entoure et le tolérer, au final.
Charline, vous êtes venue aussi avec quelques planches à nous présenter sur votre cohorte. Alors, l'idée, c'est de bien nous faire comprendre ce que c'est qu'une cohorte, comment ça fonctionne, et... Ensuite, vous nous raconterez un peu quel résultat vous avez obtenu sur les liens entre les substances que vous avez repérées dans l'environnement et les conséquences, parfois des conséquences assez tristes, sur le développement de ces mères et de ces enfants. Donc, je crois que si je fais ça, voilà.
Exactement.
Donc, votre cohorte s'appelle Pélagie.
Ça, c'est une petite illustration qu'on utilise pour présenter notre cohorte qui s'appelle Pélagie. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une cohorte de femmes enceintes qui a été mise en place en 2002 en Bretagne. Donc on a suivi 3500 femmes enceintes au début de leur grossesse. On a pu réaliser des prélèvements biologiques tels que de l'urine, du sang de cordon ombilical, du placenta, des cheveux. On a recueilli tout un tas de matrices biologiques qui nous permettent finalement d'aller mesurer l'exposition à certains contaminants chimiques qu'on va pouvoir retrouver donc dans les urines ou dans le sang. Et donc ensuite, on a suivi ces femmes enceintes jusqu'à leur accouchement. On a recueilli des données sur la santé de leurs enfants. Et on a continué à suivre ces enfants, donc à l'âge de 2 ans, de 6 ans, de 12 ans, et depuis quelques jours maintenant, à l'âge de 18 ans. Donc ça se fait soit simplement via des réponses à des questionnaires, où on va les interroger sur leurs habitudes de vie et leur santé, ou pour un sous-groupe de participants, on les invite à venir réaliser un examen clinique à l'hôpital, donc au CHU de Rennes, pour mesurer tout un tas de paramètres cliniques.
Et donc, ce qu'on comprend bien, c'est que ce qui est important pour vous, c'est cette durée.
Exactement. Oui, oui, parce qu'en fait, nous, l'hypothèse qu'on fait, et je crois que c'est un petit peu la même chose pour Marie, c'est que tout ce qui va se passer pendant la grossesse, donc l'exposition à des facteurs extérieurs, va laisser un peu comme une empreinte chez l'enfant et va entraîner le possible développement de pathologies qui ne seraient pas forcément visibles à la naissance, mais qui vont se déclarer plus tard dans la vie, donc à l'adolescence, voire même à l'âge adulte.
Et alors, avez-vous quelques résultats? Peut-être déjà, pour commencer, quelle piste aviez-vous? Quel doute avez-vous au départ de cette cohorte?
Cette cohorte, elle a été mise en place en Bretagne dans un contexte d'agriculture très intensive avec cette question de l'exposition aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens en général. Je crois que ce n'est pas encore un terme qu'on a évoqué aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens. On l'entend de plus en plus dans les médias. Donc,
vous pouvez le définir en quelques mots, si c'est possible.
Ce sont des substances qui miment les hormones qu'on a dans notre corps, donc les hormones qui sont là pour faire fonctionner divers organes et mettre en place certains mécanismes biologiques. Donc c'est des substances qui vont venir un petit peu remplacer nos propres hormones et induire des...
Tromper nos organes, en fait.
C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et donc on avait les pesticides un petit peu dans le viseur en démarrant l'étude.
Vous voulez voir un autre slide, ouais. C'est ça?
Et donc la première chose dont on s'est malheureusement rendu compte, c'est que finalement l'ensemble des femmes enceintes qui avaient participé à cette étude étaient exposées aux pesticides, donc pesticides des traces qu'on a pu retrouver dans les urines, traces qu'on a également retrouvées chez les enfants dans les années qui ont suivi. Ce qu'on a pu observer, c'est que ça a changé de...
Suivante ?
Non, c'est pas celle la suivante, ah, justement. Pardon. Voilà, c'est bon. Merci. Très bien. Donc finalement, ce qu'on a pu observer, c'est que les enfants dont les mamans avaient été exposées aux pesticides pendant leur grossesse, ces enfants avaient des performances un petit peu plus faibles en termes de performances cognitives à l'âge de 6 ans. Donc en soi, pour un enfant, c'est pas dramatique, il a perdu un demi-point de QI, c'est pas dramatique pour lui, mais si on ramène tout ça à l'échelle de la population, effectivement, on va avoir une diminution globale des performances cognitives des enfants. Donc ce qui a quand même permis notre cohorte avec ces résultats, c'est que ça a permis la mise en place d'un programme de biosurveillance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, je crois que c'est Santé publique France qui est en charge de ces programmes de biosurveillance, et qui va régulièrement prendre un échantillon aléatoire de la population pour mesurer l'exposition aux pesticides et à d'autres contaminants. Donc ça, c'est un petit peu, grâce à Pélagie et cette observation de l'exposition aux pesticides chez l'ensemble des participants, qui a amené ces campagnes de biosurveillance.
Et alors, ces insecticides, c'est possible de nous dire un petit peu quels sont-ils, et est-ce que vous savez s'ils sont encore utilisés aujourd'hui ou pas, ou...
Alors, justement, un petit peu aussi grâce à cette étude, ils ne sont plus utilisés aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle les pesticides de la famille des organophosphorés, qui ont été très utilisés il y a quelques années, suite à l'interdiction d'autres pesticides qui, eux aussi, ont montré leur dangerosité. Et donc, les pesticides organophosphorés, donc on a pu, avec d'autres cohortes mère-enfant en Europe et dans le monde, à force de montrer finalement qu'il y avait des effets réels sur la santé, toutes ces études ont permis leur interdiction au niveau européen. Donc aujourd'hui, sauf de toutes petites exceptions, ils ne sont plus utilisés en Europe. Et donc aujourd'hui, si on prenait un prélèvement d'urine chez chacun, on ne retrouverait plus de traces de ces contaminants, alors que c'était le cas en 2002.
Très bien. Marie, vous voulez compléter, peut-être passer à vos slides à vous ?
Oui, on peut, justement, pour reprendre ce qu'a exposé Charline et le concept, je trouvais que c'était important de parler de ce concept qu'on appelle le DOAD, pour Developmental Origin of Health and Disease, et c'est exactement ce qu'a ce dont Charline a parlé tout à l'heure.
En français, ça donnerait ?
C'est l'origine développementale des maladies, en fait, et de la santé. En fait, l'idée, c'est le concept des 1000 jours. On pense que les 1000 jours jouent un rôle crucial, en fait.
1000 jours, vous voulez dire 1000 jours.
Alors, c'est 1000 premiers jours de vie. Voilà. On prend de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans de vie. Et on pense que pendant cette période, finalement, l'environnement, ce qu'on appelle les facteurs environnementaux, l'exposome, notre exposition aux facteurs environnementaux, joue un rôle majeur sur la santé future de l'enfant. Alors, soit via la maman, on pense que donc, la maman, donc, pendant la grossesse et l'allaitement, donc son exposition pendant cette période joue un rôle crucial pour l'enfant futur, et le nouveau-né, en début de vie, jusqu'à ses 2 ans, aussi, son exposition pendant cette vie joue aussi un rôle majeur, puisqu'on pense que finalement ces facteurs environnementaux vont impacter le développement des grands systèmes biologiques de l'enfant, son système immunitaire, son microbiote, toutes nos barrières de la peau, de l'intestin, des poumons, et notre épigénétique. Alors c'est quoi l'épigénétique? Je crois que vous en avez certainement entendu parler. C'est finalement l'expression de l'environnement sur nos gènes, puisque notre environnement crée des empreintes. Des empreintes sur nos gènes, des empreintes vis-à-vis de notre microbiote, des empreintes vis-à-vis de nos épithélia et vis-à-vis de notre système immunitaire. Ce qui peut avoir un effet néfaste, c'est ce dont parlait Charline, mais dans certains cas, qui peut avoir un effet très bénéfique. Il ne faut pas le voir comme aussi on est tous perdus parce que notre environnement est pollué, contaminé. On peut peut-être jouer sur notre alimentation, et moi je veux vraiment avoir un message aussi positif sur l'environnement et dire qu'avec notre alimentation, on peut l'utiliser comme une clé pour ne prévenir des maladies futures. Et moi je le fais dans le contexte des allergies. Et là, vous pouvez passer à la diapo suivante. En fait, l'hypothèse que moi j'ai plutôt, c'est de se dire, jouons très tôt dans la vie, chez la femme enceinte, avec des suppléments qu'on appelle des prébiotiques. Ce sont des fibres, en fait. Ce sont des fibres qui vont avoir un impact sur notre microbiote et notre système immunitaire. Et on pense qu'en donnant cet aliment particulier pendant la grossesse de la maman, on va induire un système immunitaire particulier, un microbiote particulier à cette maman, des métabolites aussi particuliers qui vont jouer sur son fœtus in utero, et ça on l'a démontré, que ça joue sur le système immunitaire du fœtus, puisqu'elle donne des facteurs microbiens, métaboliques, enfin plutôt des facteurs métaboliques et immuns, pendant la phase in utero, et elle va aussi, on sait, lors de la délivrance, lors de l'accouchement, en fait, la flore vaginale, notamment et cutanée de la maman, joue un rôle primordial pour coloniser finalement l'enfant qui est stérile à sa naissance. Il va être colonisé par le microbiote de sa maman. Et donc si on l'a modifié avant, on a créé donc une empreinte, on a implanté un microbiote bien particulier chez cet enfant, et on pense qu'on va ainsi, et on lui a transféré des facteurs métaboliques et immuns qui vont l'aider à se développer et à le protéger des maladies futures. Et donc, actuellement, on a une étude clinique en cours qui s'appelle PREGRAL, qui est coordonnée par le CHU de Nantes, mais aussi les CHU. L'inclusion se fait à Nantes, à Toulouse, à Rennes aussi, bien sûr, et à Tours. Et donc, notre idée, c'est de recruter, et on a fait le recrutement de 376 femmes enceintes allergiques qu'on a supplémentées avec ces prébiotiques. Et on va suivre leurs enfants jusqu'à leur 1 an. Et là, on a désormais des financements pour les suivre jusqu'à 5 ans. Et notre idée, c'est de voir...
C'est combien d'enfants que vous arrivez à suivre dans ces recherches ?
376 enfants. Alors, c'est pas facile de recruter. En fait, on recrute les femmes à 20 semaines d'aménorrhée. Donc, il faut qu'elles soient allergiques. Il faut qu'on les recrute tôt au cours de la grossesse. Donc ça, on le fait avec les CHU. Et donc, on a fait le pari, on a réussi, on a recruté les 376 femmes enceintes allergiques. On a fini en avril et on aura les résultats de notre étude clinique sur les enfants en juin 2023, donc l'année prochaine. Donc on espère, on a déjà des données qui nous montrent que ça a un effet bénéfique, mais on aura la preuve chez l'homme l'année prochaine et on espère qu'on aura des bons résultats.
Très bien, bah c'est bien, ça nous redonne un peu
d'espoir.
Voilà, un petit peu d'espoir. Alors justement, vous parliez de ne pas voir l'environnement comme quelque chose d'uniquement agressif pour nous, uniquement négatif, qu'on aurait complètement détruit. Vous disiez aussi qu'on peut, en changeant notre alimentation, régler certains des problèmes qu'on voit. Et il y a aujourd'hui des... Alors moi, je vous avais parlé en préparant la table ronde de ces applications comme Yuka, que les gens connaissent peut-être, qui permettent de choisir ces aliments avec ces étiquettes qui sont parfois difficiles à décrypter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, par rapport à ça, comment modifier son alimentation pour éviter ces pesticides ?
Ces pesticides, ces allergènes, c'est en fait déjà Yuka, c'est un intérêt, je pense, d'un point de vue de la liste. Tous les ingrédients sont quand même bien à noter sur cette application, puisque sur les étiquettes, on n'a pas toujours toute la liste exacte des ingrédients. Donc je trouve que c'est un côté positif pour les allergiques, si je le vois de mon côté. Donc ça, c'est très intéressant. Après, il faut que ces fiches, comme c'est une association de consommateurs qui a créé cette application, il faut que ces fiches soient réactualisées assez souvent. Après, ça reste parfois peut-être un petit peu excessif dans les propos, dans le sens où on n'a pas toutes les preuves scientifiques pour affirmer les effets néfastes de tous les éléments chimiques. Donc ça reste, mais c'est déjà un très bon début. Je trouve que c'est vraiment super. Et d'avoir posé la question la semaine dernière à mon labo à beaucoup de gens, je vois que beaucoup de jeunes utilisent cette application Yuka. Et je pense que c'est déjà un très bon début.
On peut enlever les slides. La régie, on peut enlever les slides, hein, si vous voulez. Charline, même question par rapport à Yuka ou autre solution qui nous permettrait de comprendre un petit peu mieux ce qu'on mange et l'univers auquel on est confronté au niveau de la nourriture ou de la vie de tous les jours.
Moi, je partage un petit peu l'avis de Marie. Hein. Moi, je trouve que ces applications type Yuka sont quand même utiles quand on n'a pas la connaissance pour finalement identifier rapidement les substances à risque dans l'alimentation et aussi les cosmétiques. En fait, Yuka fonctionne aussi beaucoup sur tout ce qui est cosmétique. Et là, on voit bien que c'est très compliqué de comprendre la liste des ingrédients des cosmétiques. Et je trouve que ça a quand même l'intérêt de pouvoir identifier facilement le produit en soi contient plus ou moins de substances potentiellement dangereuses. Donc potentiellement, parce que comme Marie l'a dit, tout n'est pas encore prouvé scientifiquement. Après, voilà, on peut appliquer le principe de précaution et se dire que, bon, déjà, si Yuka dit que c'est pas terrible, je peux peut-être me méfier et essayer d'en trouver un peu meilleur. Mais
selon vous, on peut quand même faire confiance à ces notations, en tout cas dans les grandes lignes ?
Je pense, ouais. Oui. Oui, je pense que oui. Après, peut-être que dans quelques années, on se dira, bah ok, Yuka disait ça, c'est pas bon, et finalement, la science a montré que finalement, c'était pas très dangereux. Mais bon, il vaut mieux se tromper dans ce sens-là, je pense.
Juste pour ajouter, l'INRAE avec l'ANSES pilote aussi une autre application qui s'appelle, je pense, Ocali, qui aussi donne des précautions et analyse aussi l'impact nutritionnel des produits ultra transformés. Et ça, c'est l'enjeu aussi que s'est donné l'INRAE, c'est de participer justement à l'impact santé de ces aliments ultra transformés via cette nouvelle application. Donc, ça bouge beaucoup. Je pense qu'on va, on tend à aller vers, et c'est très positif pour aider en tout cas le citoyen à choisir.
À s'y retrouver. Donc là, on ne parle plus de substances, mais de façon dont les aliments sont fabriqués.
C'est ça, c'est l'impact santé des produits ultra transformés. Voilà. Ça, on ne connaît pas encore bien tout ce qui se passe à ce niveau-là encore. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux de recherche à faire dans ce contexte.
Bien, avant qu'on passe au dernier chapitre que je voulais consacrer un peu au lobby et l'expérience que vous pouvez avoir dans ce cadre-là des lobbies, j'avais une question que j'avais envie de vous poser, à laquelle vous pouvez répondre ou non. Mais c'était, moi je voulais savoir, là, de votre point de vue personnel, si je vous demande quelle est la substance, la matière qui vous effraie le plus, qu'on est en train de mettre dans notre environnement et qui vous effraie le plus, laquelle est-ce ? Et Joseph, même question, s'il y a quelque chose qui t'effraie particulièrement en ce moment, c'est le moment de nous le dire, de nous le partager.
Je pensais à des choses plus immatérielles. Je me demandais, quand on est dans les études, est-ce qu'il y avait des mesures aussi sur les ondes Wi-Fi, sur toutes ces choses immatérielles en fait, qui viennent peut-être impacter l'organisme avec des conséquences dont on n'a peut-être pas idée en fait. Ça ne fait pas partie des...
Si, ça fait partie des choses qui sont étudiées dans les cohortes mère-enfant et dans d'autres cohortes chez l'adulte. C'est des choses qui sont quand même assez difficiles à mesurer finalement. C'est qu'on ne peut pas facilement, à l'aide d'un questionnaire par exemple, réussir à capter toutes les sources d'exposition aux différentes ondes. Donc c'est vrai qu'à ce stade, le problème principal, c'est qu'on n'arrive pas bien à mesurer. Et donc, tant que l'exposition n'est pas bien mesurée, on ne peut pas bien mesurer l'effet que ça va avoir sur la santé. Mais c'est aussi des choses auxquelles on s'intéresse là actuellement. Il y a un questionnaire qui a été développé pour essayer de capter toutes ces ondes différentes et en fonction des usages. Donc là, on est chez des adolescents où on va leur demander leur temps d'usage de Wi-Fi pour regarder des vidéos, pour envoyer des messages et essayer d'estimer un petit peu une exposition aux ondes. Et pour répondre à ta question, en fait, je ne vais pas vraiment y répondre. Moi, ce qui m'interroge davantage, ce n'est pas une substance, mais c'est la combinaison de toutes les substances. Et tout à l'heure, Marie a utilisé le mot exposome. En fait, l'exposome, c'est un concept assez récent dans le domaine de la santé environnementale et qui vise finalement à étudier l'ensemble des expositions environnementales qu'on peut rencontrer dans nos vies. Parce que finalement, on n'est pas juste exposé à un pesticide, on va être exposé à une dizaine de pesticides, mais en plus, on va être exposé à d'autres substances via donc les cosmétiques dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, tout ça va se combiner avec la pollution de l'air, etc. etc. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que...
Et avec les ondes.
Et avec les ondes, ouais. Exactement. Et donc aujourd'hui, toute la réglementation qui est faite pour évaluer les risques associés à une substance sont faites sans tenir compte de toutes les autres substances qui potentiellement auraient un effet combiné et qui finalement, au cumulé, va provoquer un problème pour la santé. Donc je ne dirais pas que j'ai une substance dans le viseur.
Donc pour toi, c'est le cocktail qui te fait peur.
Exactement. Et on parle de cocktail. Exactement, oui. C'est ça.
Marie ? Je suis tout à fait d'accord avec Charline pour l'avoir étudié, puisque dans l'équipe, on s'y intéresse. Alors, c'est difficile d'aller comprendre. Alors, par des études épidémiologiques, comme tu le fais, c'est fabuleux parce qu'on peut avoir ces impacts, ces expositions par des questionnaires, etc. Donc, on va avoir ces infos-là. Mais nous, à l'échelle de l'expérimental, il faut aller le démontrer. Alors, c'est difficile de le démontrer en prenant en compte tous les facteurs, mais on l'a fait dans le contexte des pesticides, en se disant, on a pris des doses, on a fait un cocktail de pesticides. Et c'était l'idée, c'était de voir avec des petites doses qui sont considérées par l'EFSA comme non néfastes, en fait, hein, donc comme acceptables. Et donc, on s'est dit, tiens, on va mettre toute cette dose, on va faire un cocktail et on va voir ce que ça fait sur les allergies. Et en fait, ça augmente le risque d'allergie. On tend à dire que ça augmente le risque d'allergie. Donc,
chaque substance est elle-même dans la réglementation, oui. Mais le cumul de toutes ces substances, lui, a un effet.
Exactement. Donc, je suis complètement d'accord à l'intérêt d'aller regarder les effets cocktails. Après, c'est la complexité du système. Hein. On l'a fait avec le bisphénol A aussi. Le bisphénol
Qu'est-ce que c'est que le bisphénol A?
Vous savez, il est interdit maintenant. Il était dans toutes nos bouteilles de plastique, enfin dans les plastiques en fait. Et on l'a remplacé par le bisphénol F, je crois. Donc, bisphénol A, bisphénol F, je pense que dans tous les cas, en tout cas pour le bisphénol A, ça a été démontré que c'était totalement néfaste. Et on l'a démontré aussi en allergie, on l'a publié, que ça augmente aussi la sévérité de l'allergie alimentaire. Donc ça, c'est clair. Donc le bisphénol F, ça reste à être étudié, mais je ne suis pas persuadée que ça soit si néfaste que ça non plus. Donc c'est compliqué, en fait, d'aller étudier ces facteurs. Mais en tout cas, on le fait. C'est pour dire qu'on le fait.
Joseph, un commentaire sur le cocktail?
Je me demandais si on va s'en sortir, enfin, est-ce qu'on va s'adapter? Il y a des pistes où on s'adapte? Est-ce que notre organisme il s'adapte à ces choses nouvelles ou plutôt ça va être compliqué quoi, ça...
Ou est-ce qu'on va disparaître avant d'avoir le temps de s'adapter?
Voilà.
J'aurais tendance à dire que je suis assez optimiste hein, d'un point de vue global. Donc je pense qu'on... Après, voilà, c'est la difficulté de dire jusqu'où on s'adapte. On a tendance à bien s'adapter quand même. L'espérance de vie, elle est assez... On arrive à nous maintenir en vie depuis de plus en plus longtemps. Alors ça se stabilise, hein, j'entends. Je pense qu'on doit faire aussi... en sorte de s'adapter. Alors bien sûr, dans une certaine limite, c'est ce qu'on discute là aujourd'hui, puisqu'il faut diminuer, il faut jouer sur les pouvoirs publics pour diminuer nos expositions aux microplastiques, aux pesticides, à ces additifs. Je pense que ça a un intérêt, il faudra qu'on le prouve, mais je pense qu'il faut déjà beaucoup sensibiliser les pouvoirs publics pour cela et le démontrer. Ça, c'est notre job de le démontrer. Ça, on fera en sorte de le faire. Mais je pense qu'on ne peut pas totalement ne pas être exposé à des substances qui sont donc contaminantes et qui vont avoir des effets sur notre santé, des effets d'inflammation, de micro-inflammation. Et il faut essayer de tolérer, au fait. Et notre organisme, il faut aussi lui faire confiance. Et c'est l'exemple dans le cas de l'allergie, par exemple, si je vous parle de désensibilisation allergique, l'objectif, c'est que pour que vous ne soyez plus allergique, il va falloir qu'on vous expose aux allergènes, qu'on vous expose à des toutes petites doses de ces allergènes et qu'on fasse croître petit à petit ces doses d'allergènes pour vous rendre tolérant et vous guérir de cette maladie. Et ça, ça marche. Ça marche, sauf qu'il faut continuer l'exposition pendant longtemps et on ne sait pas combien de temps pour que ça perdure, cette tolérance. Donc au final, je suis assez positive sur le fait qu'il faut qu'on adapte notre organisme dans une certaine limite. Il faut aussi sensibiliser les pouvoirs publics. Et je termine quand même pour dire que c'est important de diminuer notre exposition à tout ce qui est contaminant. Ça, c'est certain.
Alors, les pouvoirs, justement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Charline, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes parvenue à... En tout cas, comment votre cohorte est parvenue à faire interdire ou en tout cas réduire une substance ? Et comment ça se passe quand on est confronté à ce qu'on appelle les lobbies, les fameux marchands de doutes, ceux qui arrivent à prendre une étude scientifique et la renverser complètement à l'envers pour lui faire dire l'inverse ?
Déjà pour tout dire, on n'y est pas parvenu tout seul. Hein, ce n'est pas que la cohorte Pélagie. Il faut quand même que les résultats soient répliqués dans d'autres cohortes, dans d'autres pays, avec peut-être des doses d'exposition un petit peu différentes. Ça prend du temps, entre le moment où on va recruter les femmes enceintes, analyser les données, publier l'article scientifique derrière, il se passe plusieurs années. Et ensuite, entre le moment où on publie l'article qui montre qu'il y a un risque pour la santé, derrière, il y a nos agences sanitaires en France, par exemple, qui vont prendre position, qui vont alerter finalement en disant... en donnant un avis d'expert montrant que cette étude, plus toutes les autres, montre qu'on a un risque pour la santé et donc va vouloir agir. Et puis, on a encore une strate supérieure qui vient se positionner aujourd'hui, qui est l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de substances qui sont régularisées au niveau européen. Et derrière, il y a aussi tous les lobbies qui vont justement aussi aller jouer des coups de... auprès de l'Union européenne pour essayer de contrer un petit peu nos études.
Alors donnez-nous un exemple, soit quelque chose que vous êtes parvenu à faire interdire, soit quelque chose que vous êtes en train d'essayer.
On pensait y être parvenu et finalement on a fait un petit peu un pas en arrière. Tout à l'heure je parlais des solvants qui sont présents dans les cosmétiques et je voudrais parler plus particulièrement des éthers de glycol, donc ils sont une famille de solvants, et au sein des éthers de glycol, on retrouve le phénoxyéthanol. Donc le phénoxyéthanol, c'est un composé qui est utilisé dans beaucoup de cosmétiques en tant que conservateur pour limiter le développement de bactéries. Et donc notre cohorte Pélagie a beaucoup contribué aux connaissances qu'on a actuellement sur la santé de l'impact potentiel de cette exposition au phénoxyéthanol. Donc on a publié plusieurs articles scientifiques montrant des effets sur une diminution de la fertilité des femmes, sur une diminution de la cognition chez les enfants, un risque de malformation augmenté à la naissance, enfin plusieurs impacts sur la santé. Et on a réussi finalement, grâce à toutes ces études, à pas réveiller notre agence sanitaire, ouais, mais
alerter.
Donc, alerter, voilà. J'ai sauté l'étape de... Donc on a publié nos résultats, et puis derrière, on a régulièrement, à chaque fois qu'on parle de phénoxyéthanol, on a des réponses à nos articles, donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut contacter l'éditeur du journal dans lequel on a publié notre article et dire bah, je voudrais un droit de réponse parce que je ne suis pas d'accord avec ce que les chercheurs ont dit. Ce qui est tout à fait autorisé, hein. Il y a le droit d'avoir un discours entre scientifiques. Là où ça pose problème, c'est que ces gens qui viennent critiquer nos articles qu'on publie sur le phénoxyéthanol sont des gens qui travaillent pour l'industrie, qui fabriquent le phénoxyéthanol. Et donc derrière, ils vont souligner toutes les limites propres à nos études épidémiologiques parce que oui, on ne contrôle pas comme en laboratoire qui est exposé, qui n'est pas exposé. Ils peuvent être exposés à d'autres choses, donc qu'est-ce qui prouve que c'est bien le phénoxyéthanol le problème et pas l'autre composé? Et donc voilà, ça se répète. À chaque fois qu'on publie un article sur le phénoxyéthanol, on a quelqu'un de l'entreprise, de l'industrie des solvants qui vient publier un démenti. Donc
ils utilisent en fait ce pilier de la méthode scientifique qui est la vérification par les pairs pour en fait finalement ralentir la recherche, ralentir la connaissance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça?
Si j'avais la solution, ça n'arriverait plus. Non, je ne sais pas. Bon, finalement, l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a quand même réussi à limiter l'usage du phénoxyéthanol dans nos cosmétiques, en particulier à destination des tout-petits. Et là, nouveau rebondissement, en septembre, la Fédération des entreprises de beauté en France a demandé un recours auprès de l'Union européenne pour dire bah non, la France n'a pas le droit d'interdire ce composé dans les produits à destination des tout-petits, c'est à l'Europe de décider. Donc en gros, ils ont mis un petit peu une petite amende à la France en disant non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et donc voilà.
Donc on recule.
Voilà, on recule.
Quelques pas en avant et quelques pas en arrière. Donc finalement, la solution dont on parlait tout à l'heure, c'est que tout un chacun fasse attention à ce qu'il achète et ce qu'il utilise. C'est peut-être là un levier peut-être presque plus fort, finalement, pour l'action, hein, je veux dire, pas pour la recherche. C'est un levier plus fort que d'attendre des modifications, l'évolution de la pensée politique.
Oui, je pense que c'est à nous, citoyens, de faire en sorte d'acheter, finalement, des produits peut-être plus sains. Pour les cosmétiques, je pense que le message le plus simple, c'est moins il y a d'ingrédients dans la liste, mieux c'est. Et puis oui, d'essayer quand... Alors, derrière, on peut pas... C'est difficile comme message à faire passer parce qu'on pourrait dire consommer bio, mais derrière, il y a d'autres choses qui font que tout le monde ne peut pas consommer bio. Ça coûte un petit peu plus cher. Donc, disons qu'il faut essayer de varier aussi son alimentation, essayer de prendre le pour d'un peu de tout.
Merci. On arrive à l'horaire des questions. S'il y en a dans la salle. Alors, je ne sais pas comment ça marche pour le micro. Ah, ben, il y a un micro, c'est parfait. Et il y a une question. Et ben, commençons la série de questions.
Merci. J'avais une question. Vous avez parlé des pesticides, mais pas des produits de dégradation des pesticides qui se retrouvent dans l'environnement en quantité équivalente, voire supérieure, et qui stagnent dans les sols et qui se retrouvent ensuite dans les nappes phréatiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces produits-là?
En fait, dans nos cohortes, on ne mesure généralement pas le pesticide en soi parce qu'à la fois, il est dégradé dans l'environnement, mais aussi, une fois qu'il pénètre dans notre organisme, il est dégradé, il est métabolisé. Et donc, nous, on s'intéresse aux métabolites, aux substances de dégradation, justement. Donc, finalement, on n'exclut pas du tout nos études... Le résultat de cette transformation, que ce soit dans l'environnement ou dans notre corps. On s'intéresse. D'ailleurs, c'est principalement des métabolites de pesticides qu'on mesure et non pas le pesticide en soi qu'on ne retrouvera pas dans notre organisme.
Un métabolite, c'est un dérivé, quoi, quelque chose qui provient.
C'est ça. En fait, nous, on va ingérer ce qu'on appelle la molécule mère, donc le pesticide. Et derrière, on va avoir des enzymes qui vont transformer ce pesticide en métabolite.
Très bien. Avons-nous une autre question? Allez-y, soyez pas timide. Ouais, devant. Très bien.
Par rapport à la guerre des industriels face à la recherche, parce qu'il faut appeler un chat quand même, c'est très clair. Pourquoi on ne fait pas un Yuka des chercheurs? C'est-à-dire une appli où on voit tout de suite qu'en tapant le nom du gars, qu'il appartient à l'industrie. Et s'il appartient à l'industrie, il peut pas, il est obligatoirement dans un travail critique qui gêne la recherche.
En fait, ils ne s'en cachent pas. C'est-à-dire que quand on publie un article, on est obligé de mettre une affiliation scientifique. Et donc, ces gens-là disent clairement, mon affiliation, c'est telle ou telle compagnie qui fabrique des solvants. Donc, ils ne s'en cachent pas tant que ça. Après, il y a certains conflits d'intérêts qu'on essaye de masquer. Enfin, quand je dis on, ce n'est pas les chercheurs. Hein. Enfin, pas moi, en tout cas. Et sur le volet cosmétique ou un peu plus lié aux médicaments, on a des bases de données publiques pour des médecins, par exemple, qui toucheraient de l'argent de l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est libre d'accès. Tout le monde y a accès.
Je peux peut-être compléter. Comme le disait Marie, tout n'est pas mauvais dans l'environnement. Tout n'est pas mauvais non plus dans la collaboration avec l'industrie. Enfin, si vous voulez commenter un peu cette idée.
Non. Puisqu'on a besoin de l'industrie. Moi, typiquement, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la cohorte pré-grale où je supplémente avec des prébiotiques, ces prébiotiques qui viennent de l'industrie, en fait. Et ces prébiotiques, ils sont donnés dans les préparations pour nourrissons, pour la santé de l'enfant, pour diminuer notamment les diarrhées, les grosses diarrhées qu'ont les nouveau-nés en début de vie, ce qu'on appelle des diarrhées qui sont liées à un virus, c'est un rotavirus. Donc finalement, c'est grâce à eux qu'on a aussi ces suppléments alimentaires dans ce contexte-là. Et on travaille conjointement avec eux pour avancer dans nos recherches. Moi, je viens de déposer encore une demande de thèse aussi avec un autre grand industriel danois de l'industrie de la nutrition personnalisée. Et ils commercialisent aussi des prébiotiques comme ça qui sont dérivés du lait maternel, en fait, puisqu'il y a des sucres dans le lait maternel qui jouent un rôle majeur aussi pour la santé de l'enfant. Et donc, ces industriels-là s'intéressent aussi à produire ces sucres pour avoir leurs effets bénéfiques. Donc, on travaille conjointement, ensemble, pour aller aussi comprendre comment ça se passe et essayer de prévenir des maladies futures. Donc, ça se passe très bien.
Mais le yucca des chercheurs, c'est pas mal.
Oui, je pensais à ça, parce que c'est vrai que d'un œil extérieur, pas scientifique du tout, on a une intuition qui pourrait nous dire que le problème, c'est pas la substance, mais le capitalisme. Enfin, c'est à gros traits, mais qu'il y a quelque chose dans la révolution industrielle, tout ça, qui a noyé le monde dans un bain, et aujourd'hui, peut-être qu'on a créé... Enfin, que ces industries ont créé l'armement et le médicament, quoi. Enfin, qui sont dans un système quelque chose de très ambivalent dans ce rapport qu'on a. Parce que ces substances, elles sont produites par... elles ne viennent pas de la nature, quoi. Enfin, toutes ces substances. Et du coup, peut-être qu'il y a une responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas une envie, des fois, des chercheurs de pointer du doigt la responsabilité de tel producteur, de telle substance, quand même, a une responsabilité
Oui, tout à fait. Moi, tout à fait. C'est notre rôle d'aller vraiment, par exemple, sur l'ultra transformé, sur la transformation de l'aliment. Typiquement, là, on se pose des questions. Bon, nous, on a eu un exemple classique dans le contexte de l'allergie alimentaire au gluten, en fait, au gluten qui est donc qui vient du blé. Hein, vous le savez tous. En fait, il y a des procédés de transformation de chauffage qui ont créé des nouvelles allergies à ce gluten. Alors, et ce gluten chauffé, on le retrouve à la fois dans les viandes, dans tout ce qui est en fait charcuterie, toutes les tranches de jambon reconstituées, et aussi dans les shampoings. Ils utilisent aussi, de par le pouvoir élastique de ce gluten chauffé, et on s'est aperçu que ça faisait des fortes allergies finalement et des chocs anaphylactiques. Les gens pouvaient en mourir d'ailleurs. Et donc là, on a démontré que c'était néfaste et ce produit est enlevé de l'industrie agroalimentaire. Vous ne retrouverez plus de gluten, des amidées dans l'industrie à la fois cosmétique et dans l'industrie agroalimentaire. Donc au final, ils ont compris, les industriels, qu'ils n'avaient pas le choix de toute façon, puisque le travail le montre, il est publié et comme l'a dit Charline, c'est... Une fois qu'on publie un article, ça rentre dans le domaine public. Donc tout le monde est au courant et donc l'industriel ne peut que se fier à ses résultats. Et donc il sait que là, le public est au courant. Donc il annule et on n'a plus ses produits finalement dans l'industrie.
Quand il est bienveillant, enfin, je veux dire, quand il est capable de lire l'article et de l'appliquer.
De toute façon, il y a une législation qui s'applique, hein, puisque nous, dans le cas des allergies, il y a un étiquetage, il y a une réglementation aussi européenne sur l'étiquetage des allergènes et la recherche de nouveaux allergènes. Et quand on a identifié un nouvel allergène, un nouveau procédé qui peut renforcer l'allergénicité, ils sont obligés de se soumettre à cette législation. D'accord. Qui interdit l'utilisation de. Donc, ça s'est stoppé automatiquement.
Bien. Avons-nous une autre question ? Ouais.
Oui, alors je voulais remercier Joseph du coup pour ce qu'il a dit parce que ça commence un peu ce que j'allais dire. Moi, ça m'agace toujours un petit peu d'avoir l'impression que déjà on fait que traiter les conséquences et pas les causes. Comme là, on traite pour éviter les allergies sur les enfants, et ben on va traiter avec une substance supplémentaire pendant la grossesse et on va pas gérer ce qui se passe environnementalement parlant et qui crée des allergies. Donc on est toujours en train de traiter la conséquence. Et là, on a parlé d'adaptation, et c'est le terme à la mode, de résilience aussi, où on est toujours en train de... Voilà, il faut s'adapter, mais on ne traite jamais la cause du problème. Et en plus, là, on finit un peu le discours de fin en disant, bah oui, ça avance pas trop. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que le consommateur, il faut qu'il puisse vérifier. Donc voilà, on dit à l'appli machin, il y a l'appli truc. Et donc, encore une fois, on renvoie la responsabilité sur le consommateur. Et ce que je trouve un peu fou, c'est que les chercheurs, ils doivent prouver que la substance, elle est nocive, alors que ça devrait être l'industriel qui devrait prouver que sa substance, elle est bonne. Et en fait, on est toujours dans un rapport où on doit prouver qu'on a raison, prouver après coup. En fait, on a l'impression qu'on a toujours 10 ans de retard, quoi. Le temps que la recherche ait les moyens de s'emparer de « Ah ben tiens, faut cette substance-là, faut peut-être la regarder, voir ce qu'elle donne et si elle est mauvaise », eh ben c'est pas grave, l'industriel, il a eu le temps d'en créer une nouvelle et on remettra 10 ans à prouver que, c'est pas bon. Donc on est toujours en retard et on traite toujours des conséquences.
Merci. Avez-vous cette frustration d'avoir l'impression d'être toujours en retard ?
Je ne pense pas que ce soit nous qui soyons en retard, mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire madame. Et que finalement, c'est à l'industriel de prouver que sa substance n'est pas nocive. Le problème, c'est que souvent, il cache finalement les informations. Hein. On a des gros exemples avec les perfluorés, par exemple, aux États-Unis, qui ont fait scandale et qui, malheureusement, aujourd'hui... arrive aussi en Europe, hein, on a aussi ce problème des composés perfluorés. Après, je pense qu'on a réussi à faire un petit pas au niveau de l'Union européenne sur, par exemple, les perturbateurs endocriniens. Il y a eu énormément d'argent qui a été mis pour justement développer des tests qui permettent, avant que la substance soit sur le marché, de dire si, oui ou non, c'est un perturbateur endocrinien. Et finalement, ces tests vont être obligatoires pour les industriels. Donc avant de mettre la substance sur le marché, l'industriel va devoir réaliser ces tests. Si la substance ne passe pas les tests, elle n'est pas mise sur le marché. Donc ça, c'est dans l'idée de ce qui a été financé par la Commission européenne. Et donc ces projets vont se terminer d'ici 1 ou 2 ans. Après, reste à voir si ce sera vraiment mis en place et appliqué.
Et pour les allergies, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on s'intéresse très vite parce que vous voyez qu'on végétalise de plus en plus notre alimentation et c'est une nouvelle source de protéines, on ne sait pas ce que ça va faire sur l'apparition des allergies. Donc on y travaille, mais c'est vrai, je suis d'accord, c'est que les industriels les mettent dans les produits. Vous avez des protéines de pois maintenant partout dans les produits végétalisés et on ne sait pas ce que ça fait sur les allergies. Donc là, nous, on y va tout de suite. On va traiter déjà de la question, mais le temps qu'on te la traite, il faudrait aussi qu'on ait qu'on soit très nombreux pour travailler. On n'est pas non plus, on se multiplie pas. On n'est pas, vous voyez bien, on n'est pas tant de chercheurs à travailler sur ces questions-là au niveau national. Hein, donc on a 2 grosses équipes à l'INRAEN en France qui s'intéressent aux allergies alimentaires. 2 équipes de... Allez, on va aller une vingtaine de personnes. Donc on n'a pas la masse aussi pour aller très vite. On fait ce qu'on peut, mais on y travaille en tout cas. Mais vous avez raison. L'industriel met sur le marché les produits. Le produit, les prébiotiques ont été mis sur le marché sans savoir même vraiment leurs effets caractérisés et identifiés par la science. Donc ils introduisent sans vraiment savoir ce que fait le produit. Et c'est vrai que ça, je suis d'accord que vraiment, c'est très important d'aller caractériser le produit avant qu'il soit mis sur le marché.
Bien sûr. Alors Marie, Charline, on vous remercie. Je suis sûr que sur le Yuka des scientifiques, vous auriez 100%. Et merci à vous, Joseph. On peut vous applaudir. Et merci à vous pour cette table ronde.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir.